Béni sois-tu, pauvre frère Soleil, béni sois-tu pour la lumière, pour Sœur Eau. Tout le monde connaît, j'espère, le cantique de Saint François sur les créatures. Voilà, Jésus, où François exprime sa joie toujours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est tombé malade dès l'âge de 20 ans, et à partir de ce moment-là, il est resté malade toute sa vie. Il a eu donc une complexion physique, physiologique extrêmement fébrile, avec des maux de tête permanents, des fièvres permanentes. Se greffait là-dessus un problème psychologique très grave avec son père, un conflit psychologique très très aigu. Et Saint François d'Assise, en fait, est mort à 45 ans, sans aucune blessure. Et en fait, il est mort de souffrance. C'est une espèce de... Il a traîné la douleur dans son corps. Ce n'est pas du tout les stigmates, puisqu'en rentrant, au contraire, les stigmates revivifient le corps. Et donc, c'est quelqu'un qui a connu son corps est mort d'épuisement. Et pas tellement à cause des pèlerinages qu'il a fait, mais à cause des souffrances, des douleurs qu'il portait en raison de tout ce qu'il a eu successivement en cascade. Bon, nous le savons bien, il a connu une médiocrité spirituelle jusqu'à l'âge de 20 ans. Il s'était engagé politiquement dans le mouvement communal, et donc il faisait participer aux grandes descentes de guerre civile contre Pérouse. Tout le monde sait ça. On l'appelait le français parce que c'était le chouchou de sa mère. Enfin, parce que sa mère était française. Le François, il passait souvent en France, dans toute son enfance. Son père l'amenait en France pour acheter les étoffes. Et donc, il passait beaucoup de temps en France. Puis, il revenait ensuite à Assise. Et son père la vendait les étoffes qui étaient ramenées de France. C'était un businessman, son père. Alors lui, au contraire, face à l'avarice de son père, c'était très prodigal, très grande prodigalité, c'était lui. Alors maintenant, on va rentrer dans le truc plus. Donc sa conversion est arrivée à peu près à l'âge de 20 ans. Et vous savez qu'il a été, à la suite d'une descente sur Pérouse, il a été fait prisonnier. On l'a mis dans un cachot. Et c'est là qu'a commencé du reste un peu sa conversion, sa première conversion. On l'a mis dans un cachot extrêmement humide, sans lumière, etc. Et là, il a attrapé la tuberculose. Une tuberculose pulmonaire. C'est là que commence sa conversion parce qu'il essaie de calmer en prison ses amis, leur dire, écoutez, c'est un bout en train. Donc il essaie de les calmer, leur dire qu'il faut pardonner, etc. Faut pas leur en vouloir, c'est normal, si ça veut dire quoi, etc. Mais pendant ce temps, quand même, il attrape une tuberculose pulmonaire qui entraîne quelque chose d'extrêmement pénible pour lui. C'est que pendant toute cette période, il sera fiévreux et à partir de cela, il sera toujours fiévreux, il sera toujours en transpiration, des sueurs continuelles, etc. Il est racheté par sa famille, puisqu'il a été fait prisonnier. Il est racheté par sa famille et il est soigné par sa mère pendant 8 mois, sans arrêt. Sa conversion, donc, à partir de ce moment-là, sera très lente. Elle va durer pendant 2 ou 3 ans, sur 2 ou 3 ans. Ce n'est pas du tout une conversion spectaculaire. C'est une conversion extrêmement longue. Dans la langueur d'une souffrance où il se traînait à peine, où il pouvait à peine se lever. Et sa conversion, donc, sa première étape de conversion, va faire que finalement, il va dire, je vais prendre les armes, mais pour Dieu. Je vais prendre les armes pour Dieu. Et c'est là qu'il prend un cheval, vous rappelez, une armure pour pouvoir combattre la Terre Sainte et éviter les athées, les musulmans qui détruisent. Bon, et finalement, bon, c'est tellement lourd et tout, que finalement ça ne marche pas. Et en fait, c'est la rencontre du lépreux, vous vous rappelez, qui va faire le dernier déclic, la troisième année après le début de sa conversion. C'est vraiment le site de sa conversion. Alors, vous voyez, quand il était il a commencé. Le cantique des créatures après la rencontre du lépreux. Et il s'est rappelé donc cette espèce de nuit qu'il a passé dans le cachot pendant des mois et des mois, à agoniser ou presque. Et c'est là qu'il a dit, bien, béni sois-tu pour cette nuit. Voilà. Et à chaque fois, chaque étape, jusqu'à sa mort, il va rajouter des strophes en fonction de ce qui va marquer sa chair, sous mode de croix. Non, ça n'a pas été écrit en même temps. Alors à partir de ce moment-là, il comprend, à partir de Jésus lépreux, que sa vocation se précise, c'est une vocation de pauvreté. Vous savez que c'est après, que c'est à ce moment-là que Jésus lui dit « Répare mon église, reconstruis mon église ». Et comme Jésus lui dit ça, il vole son père, il vend toutes les draperies de son père, il vend les tissus, il se dispute, il y a une contestation, il se met à poil complètement sur la place d'Assise, devant l'évêque, devant le monde, tout le monde qui est là. Et ainsi, tout nu, il a dit, moi, je ne veux rien du tout. Il avait un problème, vraiment, au point de vue psychologique, les spécialistes disent qu'il avait un problème terrible avec son père. Donc, il portait donc, au point de vue psychologique, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un problème très très pénible à porter, et au point de vue physique aussi. Alors, il rompt avec son père et la société de consommation, très bien. On est dans un cas typique au point de vue psychologique d'incommunicabilité entre le père et le fils. Bon. Alors, c'est là que. C'est là qu'il décide de partir au bout d'un certain temps en passant par l'Espagne pour convertir les musulmans ou plutôt pour y mourir martyr. Ça marche pas. Parce qu'en réalité, il est arrêté 26 mois en Espagne. Il reste 26 mois en Espagne, cloué par la fièvre. Et il est complètement seul par la maladie. Il revient à pied. Il va réessayer une deuxième fois. Il ira jusqu'en Égypte. En 1218, finalement, troisième fois, il ira en Terre Sainte, il arrivera à parler au sultan. Le sultan lui dira, mais moi je suis tout à fait d'accord, et malheureusement il ne sera pas martyrisé. Alors il va discuter avec tous les gens très poliment, ils disent, mais c'est très très bien, etc. Alors écœuré de ne pas être martyr, et il revient. Il retourne à Venise. À son retour, une nouvelle maladie le frappe. En 1224 à la Verne. Il va à la porte en 1224 à la Verne et là il va jeûner pendant 40 jours de suite. Alors le jeûne de Saint-François d'Assise, c'est l'eau. Et le 14 septembre, il reçoit le stigmate. 14 septembre, c'est le jour de la croix glorieuse. Alors à partir de ce moment-là, des troubles dans ses yeux vont commencer à apparaître un peu comme Marc Robin. Et ses yeux, en plus de que je ne sais plus quelle est la troisième maladie qu'il avait eue, qui s'accumule à chaque fois, qui se superpose, qui surajoute au précédent. C'est assez impressionnant. Ses pieds sont toujours en sang, parce qu'il marche, toujours pieds nus. En plus, maintenant, il a des stigmates qui sont béantes, qui font souffrir atrocement. Ce sont des excroissances charnues. Bon, et maintenant arrive le trouble des yeux. Le trouble des yeux est assez marrant. Enfin, il va supporter à partir de ce moment-là difficilement la lumière. Et il terminera aveugle. Au point de vue médical, on dit que c'est un trachome avec conjonctivite chronique, lésion du globe oculaire. Donc, c'est à un point tel que ça lui fait tellement mal qu'il ne peut plus dormir. À partir de ce moment-là, il ne dormira plus. Il souffre des yeux. Du coup, on essaie de le soigner. Il commence à être connu. Il y a déjà plusieurs centaines, milliers même de franciscains, enfin de gens qui le suivent. On essaie de le soigner. Et on va cautériser les zones malades de l'œil. C'est-à-dire qu'on va prendre, selon les méthodes de l'époque, un fer rouge et on va griller, ça, à vif, les parties. Et lui, il dit que ça ne sert à rien, mais le cardinal lui demande par obéissance de subir cautérisation, et c'est un traitement qui durera pendant plusieurs semaines. Et on va cautériser dans des zones malades comme ça au fer rouge, en prenant de la chaux vive comme analgésique. La cure est atroce, elle va durer plusieurs semaines. C'est tous les jours. on l'envoie finalement, ça ne marche pas. On l'envoie en tense 4, parce que la chirurgie de frère Feu en finit par échouer. Béni sois-tu pour frère Feu. C'est là qu'il a écrit Béni sois-tu pour frère Feu, qui est ardent et fort. Béni sois-tu pour frère Soleil, c'est quand le soleil commençait à lui brûler les yeux. C'est intéressant de savoir ça quand même, parce que c'est une vision qu'on n'a pas toujours, simplement ça. Alors donc, on l'envoie en Toscane, ça se complique d'une hémorragie gastrique et du odénal. Il devient gonflé, aveugle d'abord, et puis ensuite gonflé. C'est-à-dire, en plus, ça se rajoute une cinquième maladie, l'hydropisie, l'hydropique. L'estomac s'atrophie. Il ne mange plus. Mais c'est quand il souffre le plus qu'il manifeste le plus de joie. De toute façon, il dit, moi, mon frère corps, j'ai toujours aimé les grottes les plus pauvres, les ermitages les plus dépouillés, mon frère corps se dépouille. Et ma joie est grande, car frère corps. Ouais, ça. Et mon âme reste toujours assise dans ma cellule, la cellule de dame pauvreté. Malgré l'atrocité de ses faiblesses, il est toujours resté courtois, généreux, dynamique, dans son itinéraire douloureux. C'est des notes que j'ai prises d'une petite conférence de Don Leclerc, qui est un cistercien extrêmement sérieux, spécialiste de toutes les questions historiques. C'est un historico-critique. Pas mal, hein, pour Saint-François Soleste. Saint-Jean de la Croix. Saint-Jean de la Croix, quelque chose d'à peu près, pas équivalent, mais analogiquement, il y a quelque chose de semblable. Saint-Jean de la Croix a écrit les poèmes, bien sûr, vous savez bien. Alors, très intéressant, parce qu'il écrit sous forme de poème l'ascension de l'âme à mesure qu'elle fait oraison. Ce que disait donc Saint-Thérèse d'Avila, donnez-moi une... Quelqu'un qui fait une demi-heure d'oraison par jour, j'en ferai très vite une sainte. À l'intérieur de l'oraison, on progresse. Et les trois demeures de l'oraison archiclassique à partir de Saint-Thérèse d'Avila, ça va être les commençants, les progressants, les parfaits. C'est les trois grandes demeures, trois grandes zones, exactement comme pour l'amour d'ailleurs, avec sept. Une structure en 7 qui correspond aux 7 demeures. Alors, vous voyez, les commencements sont généreux, on fait oraison, et pendant l'oraison, au lieu de dormir, je pose intérieurement beaucoup d'actes. Des actes très intimes de foi, d'ouverture à la descente de la grâce, d'espérance, pénétration avec le don infini d'amour brûlant du Christ dans mon âme de charité. Je fais des actes intérieurs de foi, c'est généreux. Voilà comment on commence à apprendre à faire oraison. Ensuite, vous avez la voie illuminative, les progressants. Les progressants, c'est que vous avez fait un acte théologal, acte sur acte. Vous avez fait 500 actes de vie théologale dans la demi-heure d'oraison. Forcément, 555 actes. Et vous commencez à rentrer au bout d'un mois dans la vie illuminative, c'est-à-dire chez les progressants, et vous progressez. Parce que vous faites des actes de foi, vous pénétrez, vous êtes complètement un courant d'amour extraordinaire qui vous plonge dans le cœur de Jésus et qui fait que vous habitez tout l'univers et vous vous êtes suspendu, ne serait-ce que 2, 3, 4, 5 secondes, et vous éprouvez le fruit de votre acte. Au début, vous êtes suspendu seulement 5, 6, 7 secondes, et puis après, revient la distraction. Ou alors, tiens, je dors, je ne fais plus rien. Vite, je repose mon acte de foi. La voie illuminative consiste simplement à constater que le fruit de mes actes de vie théologale se prolonge de plus en plus, et au bout de 3, 4 mois, dans la voie illuminative, l'illumination, c'est ça. Je pose un acte de foi et je vis, je goûte, je savoure la lumière qui en résulte. Cette lumière qui en résulte se prolonge après chaque acte très intime de foi. Se prolonge une minute. Et je n'ai plus besoin que de poser sur une demi-heure une trentaine d'actes vitéologales. Au bout d'un certain temps même, je peux être suspendu toute l'oraison à partir d'un de plusieurs actes de foi. Je fais successivement au début de l'oraison pour vraiment me mettre. Et après, ça y est, je suis en présence de Dieu, je savoure la présence de Dieu. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la voie illuminative. Je savoure la présence de Dieu et je rentre dans ce qu'on appelle justement l'oraison de quiétude. L'oraison de quiétude ne consiste pas du tout à dormir. Mais l'oraison de quiétude consiste, expérimente de la manière suivante. C'est, vous voyez, vous êtes là, vous avez vos mains, et intérieurement, Dieu est tellement présent que toutes les puissances de l'âme, toutes vos puissances de sensibilité, se sont ramassées dans la présence de Jésus, et vous vous sentez lourd, 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 comme si vous dormiez. Du point de vue du corps, mais vous êtes parfaitement éveillé. Il y a une présence de Jésus qui est là, mais le corps, lui, est très lourd, comme si vous dormiez. Et pour relever la main, il faut vraiment, ça c'est une voie violente, c'est ce qu'on appelle la voie illuminative. C'est quand la saveur se goûte de manière telle, que j'allais dire, le corps lui-même s'est ramassé intérieurement, et il dort, il est pesant, parce que l'amour implique toujours quelque chose de pesant. C'est pour ça que dans l'écriture, on dit que Dieu crée tout avec nombre, poids et mesure. Et le poids, c'est l'amour. Nombre, c'est le fait que je m'engage, je m'engage, je m'engage. Et mesure, c'est là le point de vue de la perfection. Si je suis à la mesure de Dieu lui-même. Donc la voie parfaite, les progressants, c'est vu maintenant, et les parfaits, ben les parfaits, c'est quand on commence à rentrer dans l'oraison de fiançailles et où véritablement notre chair est transformée, transformée réellement dans la chair de Jésus, dans la chair du Verbe de Dieu. Vous voyez, vous allez avoir des trucs, des transverbérations, pas complètement au début, mais vous allez ressentir peut-être éventuellement les traces des plaies de Jésus dans votre chair. Vous avez... voyez, vous avez, dans vos souffrances, vous allez dire, vous avez bien éprouvé ceci, que c'est Jésus qui souffre en vous. C'est tellement joyeux de pouvoir offrir. Et c'est pour ça que Saint Thérèse d'Avila dit qu'une des caractéristiques du mariage spirituel, c'est la deuxième caractéristique du mariage spirituel, cette thème demeure, c'est une soif insatiable de souffrir. Pas du tout pour souffrir, mais parce que Jésus, parce qu'on souffre à ce moment-là, c'est Jésus qui souffre en nous, et on aime tellement Jésus que c'est les seuls moments où on sent Jésus. Et en dehors de la souffrance, on ne sent pas Jésus. Une espèce de montée. Et Saint Jean de la Croix, c'est ça. Tout Saint Jean de la Croix, c'est de regarder qu'au fond intérieur de l'oraison, une espèce de croissance qui fait que je passe par toutes les nuits. Et il l'exprime d'une manière très différente de Saint Thérèse d'Avila, la manière donc, de quelqu'un qui est théologien, qui donne des précisions extrêmement grandes, tandis que chez Saint Thérèse d'Avila, c'est plutôt des descriptions, tandis que Saint Jean de la Croix lui donne des précisions. C'est pas du tout pareil. Et notamment, vous voyez, il explique que, évidemment, quand on est au moment des commençants, on passe. On passe dans les premières nuits, les premières croix, et que toute l'intimité avec Jésus s'éprouve par la croix, par la nuit, par la purification. Ce que je vous expliquais, du reste, l'autre jour, en disant que dès que vous faites oraison, dès que vous êtes devant le Saint-Sacrement, si vous voulez vérifier qu'effectivement il y a eu une mission de l'Esprit-Saint dans votre âme, eh bien vous allez éprouver une purification, c'est-à-dire vous allez éprouver des angoisses, les trucs qui sont en vous sortent. Si quelqu'un peut témoigner, il n'y a pas de problème. Vous avez remarqué que vous portez en vous, j'allais dire, un certain nombre de trucs, et quand vous êtes devant le Saint-Sacrement, ça sort parce que, vous voyez ce que je vous disais, en disant l'Esprit-Saint essaye de croître, et du coup il pousse du coude, et ce qui sort, c'est ce qui est en vous caché, et ça sort. Ouais. Et au début, bien sûr, c'est un peu grossier, c'est pour ça que les premières purifications sont les purifications du concupiscible. Les purifications de la sensibilité, d'abord, purification du concupiscible. Alors vous faites oraison, et vous voyez que, au début, tout à fait au début, pendant un an ou deux, vous ne voyez que vos souvenirs de péchés de la chair, accentués par éventuellement les puissances intermédiaires qui donnent une intensité à cette affaire absolument dingue. Même des, vous voyez, des fantasmes invraisemblables. Vous dites, ah, chic, alors, vous dites, bien chic, ça s'en va. Après, c'est les purifications de l'irascible. Au bout de la troisième année d'oraison, c'est purification de l'irascible. Purification de l'irascible, c'est que vous êtes en train de là, et puis l'autre est à côté de vous, et puis pour un rien du tout, parce qu'il est passé devant vous, parce que le supérieur, ou parce que le préfet, ou je sais pas quoi, c'est injuste, pas tout, c'est vrai, il est plus intelligent, pourquoi pas. C'est lui qu'on désigne toujours pour diriger la liturgie, pour organiser l'animation spirituelle du cas et tout. Alors du coup, en fait, c'est super, moi je voudrais surtout pas le faire, mais enfin, bon, c'est à lui qu'on l'a confié. Et alors, le premier qui a dit, mais j'ai envie d'étrangler, c'est comme si quelque chose sortait de vous comme une espèce d'huile noire. Cette espèce d'huile noire, de la férocité noire, la colère noire. C'est ce qui est le plus pénible. Ben, je crois que c'est ce qui est le plus pénible, pour vos raisons, quand vous êtes honnête. Moi, j'ai dû subir ça pendant 2 ans. Je crois que c'était plus dur. Parce que la purification du concupiscible, c'est rigolo. La purification du concupiscible, c'est pas drôle du tout. Pas drôle du tout. Vous voudriez l'étrangler. Vous voyez bien en même temps que c'est d'une intensité tellement grande que ça ne peut pas venir, j'allais dire, de quelque chose de connaturel. C'est une purification qui vient du Saint-Esprit. C'est pas connaturel, c'est pas du tout normal. J'éprouve des choses à une intensité si grande de haine. D'ailleurs, lorsque vous voyez rencontrer le frère, vous l'embrassez. C'est très, très grand. Et vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Après, vous passez, Saint Jean de la Croix explique tout ça. Après, vous passez à la purification de la mémoire. Très pénible aussi. Très pénible la purification de la mémoire. La purification de la mémoire, la purification. Ce sont donc les trois. La purification de la mémoire se manifeste de la manière suivante. Tu pourrais dire. La purification. Hein? Non, non, c'est pas toutes les choses qui reviennent. Non, c'est pas les choses de la mémoire qui reviennent, c'est qu'au contraire, vous oubliez tout. Et toutes les grâces que vous avez reçues, tout ce que vous avez rencontré, tout ce que vous savez. C'est pas, n'est plus là, vous êtes comme perdu. espèce de néant, enfin je sais pas. Qu'est-ce que vous foutez ici, etc. Vous voyez, c'est, vous êtes là. Remarquez bien que ce serait très intéressant de faire en spiritualité du mariage le même développement que Saint Jean de la Croix, puisque c'est un sacrement et que la mystique du sacrement, l'oraison se vit à deux sur le lit conjugal, et donc il doit y avoir nécessairement ce style de purification, forcément. Vous voyez, il faudrait reprendre Saint Jean de la Croix, réécrire Saint Jean de la Croix pour l'oraison conjugale. Donc en tout cas, non, on ne sait plus où on en est, on ne se rappelle même plus que est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas. On ne voit pas du tout si d'ailleurs qu'on n'aime pas ou qu'on déteste. Non, non, non. Un espèce de sentiment. Un sentiment de flottement, d'oublier tout, et du reste, quand on essaye d'essayer de prier, on a tout oublié. Même. Ça va à un point tel qu'on en arrive même à oublier quelquefois les paroles du Notre Père. Enfin, on oublie tout. On est comme dans un état de. Vous voyez, ça se manifeste aussi par le fait que quand vous priez, par exemple, le chapelet, vous êtes incapable de dire je vous salue Marie. Mais c'est à ce moment-là que ça se fait. Vous voyez, la mémoire, c'est ça. Vous êtes incapable de dire je vous salue Marie, c'est très bon. À ce moment-là, il ne faut pas forcer. Restez en silence et puis c'est tout. Dit plus chapelet, vous essayez de le dire le soir aux endormants, puis l'ange gardien terminera, pas vous inquiéter. Mais quand on ne peut plus dire notre Père, dites-le notre Père, et puis qu'est-ce que c'est après, je ne sais plus, où est-ce que j'en étais dans notre Père, vous dites des Ave Maria, des Pater, et puis tout le temps, ça s'arrête, alors vous dites où est-ce que j'en étais, puis je ne sais plus. Et vous servez la messe, vous voyez, ça. Vous arrivez avec les burettes, au moment de la communion.
Vous dites que notre Père au monde
est un peu.
Oui, c'est ça. Enfin, vous êtes complètement perdu. Du coup, les gens vous regardent avec des gros yeux en disant mais il est complètement con ce mec. Complètement idiot, mais il est débile, etc. Et de fait, vous avez un tas de débilité affolant. Non, non, ça n'est justement non. Ça n'est pas de l'étude. Ça, c'est pour tout. Vous faites oraison tous les jours. C'est quelqu'un qui fait oraison tous les jours. Hein? Ça concerne toute la vie, oui. C'est une période très pénible, très pénible, très pénible. Et ça, successive. Alors. Quand on parle, oui, il y a aussi le fait qu'on s'exprime mal. On exprime le contraire de ce qu'on voudrait exprimer. Enfin, bref, c'est très humiliant la purification de la mémoire. Ça n'est pas aussi usant que la purification de l'irascible, parce que la purification de l'irascible, on a l'impression d'être détruit par cette espèce de haine qui vous ronge. Donc, je trouve que le plus pénible, moi, c'est la purification de l'irascible. Pardon ? Ah non, non, non. Alors après, Saint Jean de la Croix explique que vous avez la purification après la purification de l'irascible, vous avez les différentes nuits. Donc, vous avez les nuits de la sensibilité, les nuits de. Et les différentes nuits, donc vous passez aux différentes nuits maintenant. Après la purification de la mémoire, vous passez ensuite à la purification des idées, vous voyez, mais ça c'est lié à la mémoire. La purification de l'intelligence, la nuit de l'esprit. La nuit de l'esprit, c'est quoi? Alors la nuit de l'esprit, ça c'est effrayant. La nuit de l'esprit, c'est quand vous êtes dans des états où vraiment il n'y a plus rien. Parce que quand même, dans la purification de la mémoire, vous avez encore la foi. Vous avez encore, j'allais dire, la présence de Dieu. Vous avez encore... Tandis que dans la purification de la nuit de l'esprit, alors là... Pardon? Non, ça c'est la nuit après, c'est la nuit de la foi. La nuit de l'esprit, c'est la nuit d'intelligence, qui véritablement est... est prise par une certitude, pardon, pas par une certitude, par une évidence, plus exactement. Vous voyez la différence entre certitude et évidence. La foi demeure, la certitude de la foi demeure très profondément, mais assez enfouie quand même, très profondément. La preuve, c'est que je demeure. mais en même temps avec l'évidence du caractère vide, quelquefois absurde et quelquefois faux, de tout ce que tu crois, de tout ce que tu vis. Et tu t'aperçois au fond que tu es complètement en dehors de tes plans, tu restes là, mais tu t'es trompé. Mais c'est évident que tu es en dehors de ta vocation, c'est évident que tu es ça. En même temps, tu gardes la foi, bien sûr. Toute cette part, tu vois clairement. Donc tous les doutes qui s'étaient accumulés, ressortent à ce moment-là sur tous les athéismes qui sont en toi. C'est pas encore la nuit de la foi, ça. C'est la nuit de l'esprit. Ensuite, vous avez la nuit. Oui, mais ensuite, vous avez la nuit de la foi. Alors, la nuit de la foi, c'est quand vous êtes véritablement pris par quelque chose de... C'est par rapport à la foi. Alors, là, c'est la certitude que c'est faux. À ce moment-là, il faut adorer et demeurer. Il faut passer par toutes ces étapes. Celui qui ne passe pas par ces étapes ne pourra pas aller au ciel. Donc il faut faire oraison tous les jours, c'est absolument obligatoire. Il ne pourra pas aller au ciel, c'est-à-dire que les étapes de purification correspondantes, vous devrez les faire au purgatoire. Et justement, le scapulaire de la Vierge vous mettra dans un état tel d'intérieur que vous ferez oraison tous les jours. Et oui, elle s'arrangera pour passer au raison tous les jours. Alors, dans la nuit de la foi. Et la nuit de la foi est quelque chose de très très beau parce que, si vous voulez, vous prenez sur vous ce que croient les plus athées, les athées. Vous voyez, c'est rédempteur la nuit de la foi. Vous êtes à ce moment-là, c'est-à-dire vous êtes co-rédempteur, vous prenez sur vous et vous vivez, vous éprouvez exactement ce que vivent les plus athées, les athées. Vous voyez, alors... C'est pour ça que Sainte Thérèse, pendant un an, ça a duré cette Thérèse de Lisieux. Elle mettait sa main sur la bouche, comme ça, pour éviter que les blasphèmes sortent devant ses sœurs. C'est comme ça, l'ami. Alors, Saint-Jean de la Croix explique tout ça. Et comme c'est un poète, il l'explique sous forme de poème qu'il commente. C'est très beau, Saint-Jean de la Croix. Et il est évident que... Par exemple, dans ces strophes, pour nous, nous devons vivre sans arrêt. Habituellement, la chose classique, c'est qu'on dit, on passe la première demeure, la seconde demeure, la troisième demeure, puis après la cinquième, sixième, septième. Autrement dit, on dit, voilà, notre cheminement spirituel, c'est cette progression génétique, si vous voulez, progressive, de la première à la seconde. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Je crois. Du moins chez les frères Saint-Jean, vous verrez, ils vous diront, les sept demeures Sainte-Thérèse d'Avila, c'est fini. C'est pas fini du point de vue structure, mais c'est fini du point de vue histoire. Vous pouvez plus monter comme ça. Justement à cause des sept idéologies qui nous ont complètement décapités. Et donc, le seul moyen, c'est, il est face à la femme, le dragon, qui est le dernier rempart. Et donc, on se consacre à Marie. Et comment se consacre à Marie, elle me donne toutes ses grâces. Et donc, nous vivons des sept demeures simultanément. Selon un dosage que l'Immaculée, justement, fait elle-même. Et on constate en effet que maintenant, que nous vivons de la grâce de l'Immaculée, on ne progresse plus de la même manière que quand on n'était pas dans ses entrailles de plénitude de grâce. On va continuer tout ça parce que c'est dommage qu'on s'arrête sans profiter de l'air. Des tentations invraisemblables, des tentations contre la foi et tout. C'est sûr, dans la vie courante du chrétien, c'est normal. Mais on ne peut pas dire que ce soit une purification qui vient d'une mission de l'Esprit-Saint dans notre âme. Oui, c'est des choses qui sont naturelles. Autrement dit, on peut avoir des embrouillamini invraisemblables, des épreuves dans notre vie. Nous sommes chrétiens baptisés, puis on a des épreuves de ce genre. Mais ce sont des choses, j'allais dire, des événements naturels, psychologiques. Alors, mais est-ce que ça purifie? On m'a dit, mais est-ce que ça purifie? Ben, non, ça purifie pas vraiment. C'est le vécu normal d'une vie humaine, de quelqu'un qui est un peu religieux et tout. Qu'on trouve, d'ailleurs, c'est n'importe quel bouddhiste ou... Mais, dans l'oraison, c'est surnaturel. Moi, je parle ici d'une purification à l'intérieur d'une vie où on est, où on s'enracine d'une manière théologale, non naturelle, surnaturelle, et où on s'ouvre au fait que l'Esprit Saint va être envoyé dans notre âme, le Verbe de Dieu va croître en nous, et je vais manger le Verbe de Dieu, le Verbe de Dieu va me dévorer, l'Esprit Saint va éclater, bondir, faire irruption partout, vouloir prendre la place et purifier divinement, divinement. Il s'agit de purification divine. Alors à ce moment-là, si dans la vie courante j'ai ce genre de choses, je l'offre à Dieu, je l'offre. Alors à ce moment-là, je rentre dans ce qu'on appelle une vertu, qu'on appelle la vertu de religion. La vertu de religion fait que toutes ces épreuves naturelles que tout le monde a, ben, et même quelquefois plus que la moyenne, parce que je suis plus, j'ai une délicatesse de conscience plus grande, je l'offre à Dieu, et en offrant ça à Dieu, je me mets et je me dispose à l'oraison. C'est une disposition naturelle à l'oraison, mais c'est dans l'oraison que se situent ces purifications. C'est pour ça qu'il faut faire oraison tous les jours, tous les jours, tous les jours. Celui qui n'a pas commencé à faire sa demi-heure d'oraison tous les jours n'a pas commencé à rentrer dans le mystère de la divinisation de l'âme, du corps. Il peut difficilement progresser et croître. Vous voyez ? Alors bien sûr, par contre, on peut avoir ce genre de purification dans, on le vit quand même, notamment dans la mendication eucharistique et quand on fait action de grâce après. Ça oui. Ça oui. Vous voyez ? Ça tout à fait. Ou alors quand je dis un chapelet tout entier, et qu'après, le chapelet tout entier, un rosaire tout entier, glorieux, je suis quand même pris par la grâce de Dieu, et que, je sais pas, j'ai une demi-heure, comme ça, une heure, où il y a quelque chose, quoi. Et des onctions, où sans méditation, je passe à l'oraison, même si je suis en train de marcher dans Paris, ou je suis à mon travail, je suis dans un état intérieur d'oraison, d'union à Dieu, sans discours intérieur, ou simplement il y a une espèce d'onction, de courant d'amour très très doux, enfin très très caché, qui traverse comme une vague de fond mon âme pendant que je travaille. Je peux très bien faire oraison à ce moment-là, en effet, pendant que je travaille. Vous voyez, la méditation du chapelet, par exemple, la célébration eucharistique et la communion eucharistique, l'offrande de ces épreuves et de ces souffrances dans la vie courante sont des dispositions à l'oraison. Et dans l'oraison, je vais avoir des passages qui vont impliquer la purification, c'est-à-dire la sanctification, puisqu'on le disait, quand on a parlé de la sainteté implique pureté et surabondance. Lorsque vous êtes dans un état, vous êtes la pureté elle-même qui surabonde en débordant de vous-même, vous êtes dans la sainteté. Et c'est ça l'oraison. Je suis la pureté. Je suis la pureté. Je suis immaculé. Une manière très belle de faire oraison, c'est de dire, vous êtes là et vous dites, je suis l'immaculée conception. La pureté absolue qui déborde, qui déborde, qui déborde. Et vous restez suspendu comme ça. Et vous pouvez le faire. Et vous devez le faire, puisque vous êtes consacré à l'Immaculée, vous avez reçu le caractère du baptême, vous avez reçu Marie comme maman immaculée, au pied de la croix de Jésus. Alors à ce moment-là, vous devez dire, je suis l'Immaculée Conception. Marie, dans l'oraison, c'est vous. Ce qu'on disait hier à la messe des fiançailles, c'est que dans l'oraison, Marie est là. Et c'est elle qui commande tout, Marie est invitée, et c'est elle qui fait passer le changement de l'eau en vin, c'est-à-dire le passage justement de la prière, de l'union à Dieu naturelle, de le prendre de sa vie naturelle, des patience, des actes de patience, de vertu de force, de vertu de religion, tout ça naturel, des actes religieux comme la liturgie eucharistique ou la méditation du chapelet, qui sont des choses qui sont très belles. Mais on ne peut pas dire, bien sûr, le bon Dieu peut très bien nous purifier à travers ça, c'est sûr, mais la méditation n'est pas proprement leur esprit. Ça dispose seulement. Et vous voyez à ce moment-là que le fait de communier n'est pas l'essentiel. C'est ce que dit saint Thomas. Le fait de communier à la messe n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire oraison après. Parce que quand les espèces s'évaporent par la mendication eucharistique, alors à ce moment-là, l'oraison permet de garder la présence mystique où l'Esprit Saint et le Christ sont conjoints. Et comme je vous l'ai expliqué, là où l'Esprit Saint et le Christ sont conjoints, c'est l'Immaculée Conception. Parce que là où le Père et le Fils se conjoignent, c'est l'Esprit Saint. Et là où l'Esprit Saint et le Christ se conjoignent, c'est l'Immaculée Conception. C'est pour ça que quand vous faites oraison, vous pouvez dire, vous devez dire, je suis l'Immaculée Conception. Vous apparaissez à Bernadette. Et je crois que c'est assez difficile de faire oraison autrement. Voyez ? Une très très belle manière de faire oraison. Vous voyez que vous êtes au point de rencontre entre le Jésus dans l'Eucharistie et l'Esprit Saint qui l'envoie, et vous êtes à intersection B, le lieu où l'Esprit Saint et le Christ se rejoignent dans une seule réalité qu'on appelle l'oraison. Pas du tout donc la méditation, je pense à Dieu, je réfléchis sur un texte d'évangile, etc. Je médite le mystère de Jésus qui coupe les carottes à son maman à Nazareth. Non, c'est pas ça du tout. C'est très bien, on ne méprise pas du tout. C'est très très bien, on est très content, mais c'est pas l'oraison. Dans l'oraison, c'est la vie divine qui augmente. Là, vous voyez, une purification de la sensibilité externe. Nous passons devant un élevage de cochons. Alors, saint Jean de la Croix est très précieux pour ça, parce que si vous voyez, il faut avoir lu saint Jean de la Croix. Du moins, si, je ne sais pas si vous avez, au moment de la Pentecôte, déterminé selon la tradition de l'Église, la petite tradition, une petite tradition qui est très très sympathique et très utile, c'est savoir quel est le don à la Pentecôte que le Seigneur vous demande de vivre pendant toute l'année. Alors, si c'est, vous voyez, à la Pentecôte, dans les familles, on met des petites colonnes, comme ça, en papier. Dedans, il y a marqué esprit de sagesse, esprit ou alors esprit d'intelligence, avec la béatitude correspondante, la spiritualité correspondante. Vous voyez le tableau de cette colonne. Et comme ça, vous avez pour l'année votre livre de chevet. Si vous avez reçu le don de sagesse, le livre de chevet, c'est Vive flamme d'amour de saint Jean de la Croix. Si vous avez reçu comme don du Saint-Esprit, je ne sais pas qui est-ce qui a. Qui connaît son don cette année, qui se rappelle du don qu'il a reçu cette année pour le vivre. Toi, c'était quoi? Le
conseil.
Ah, don de conseil. C'est don de conseil. Alors c'est ça, c'est la règle de 12 degrés d'humilité de Saint-Benoît. Il faut garder sur son livre de chevet toute l'année. Non, il n'y a personne d'autre qui a reçu son don cette année. Hein? Don de crainte, alors les Fioretti de Saint-François d'Assise, comme livre de chevet. Mais quand même, pourquoi ça se fait que vous ne l'ayez pas? C'est à désespérer. Hein? Ça se fait en famille, en communauté, en fraternité, dans toutes les communautés religieuses, c'est comme ça. On reçoit chaque année son don et donc on a sa méditation. Enfin, donc pour nous, puisque nous avons été en Espagne, tous ceux qui n'ont pas reçu leur don, je déclare, pas par mon autorité, que vous avez tous reçu, sauf ceux qui l'ont déjà eu, tous reçu vive flamme d'amour, Saint Jean de la Croix, don de sagesse. Et vous devez prendre vive flamme d'amour, votre petit livret, et lire vive flamme d'amour, c'est un poème de Saint Jean de la Croix qu'il commente, ce qui se passe dans l'oraison, dans le sommet. Parce que vous vous êtes consacré à l'Immaculée, vous avez reçu le scapulaire, donc vous êtes sous le double manteau d'Élie, voyez, et vous êtes consacré en même temps à l'Immaculée, et nous rentrons dans la grande terre de Saint Jean de la Croix et de l'oraison avec Thérèse d'Avila. En plus, l'Immaculée est là, avec Fatima, etc., tous ces lieux. Tous ces lieux extraordinaires. Et par conséquent, vous voyez cette conjonction des... Cette conjonction fait que pour nous, ce sera Saint Jean de la Croix, vive flamme d'amour, parce que vive flamme d'amour, c'est vraiment le sommet du sommet de Saint Jean de la Croix. C'est le dernier poème qu'il a écrit. Et ça correspond à ce qu'on dirait dans les septièmes demeures. Or, nous devons vivre de l'oraison, non pas dans les premières demeures, nous devons vivre de l'oraison, nous, cette année, chacun d'entre nous, à son sommet, puisque nous nous sommes consacrés à l'Immaculée, et que donc nous vivons sa plénitude de perfection et de grâce dans l'oraison. Et donc, comme nous sommes avec l'Immaculée, notre cœur est complètement imbibé de la grâce parfaite de l'Immaculée, nous sommes littéralement pulvérisés en nous-mêmes, il n'y a plus que l'Immaculée, comme dit Maximilien Kolb, il n'y a plus que l'Immaculée. Ah, qui es-tu Immaculé? Où es-tu Immaculé? Pour l'Immaculé, avec l'Immaculé, dans l'Immaculé, comme l'Immaculé, par l'Immaculé, dans l'Immaculé, avec l'Immaculé, je suis l'Immaculé. Alors, quand je suis l'Immaculé, il y a une intensité extraordinaire de qualitative au point de vue oraison. Et si vous voulez voir exactement de quoi il s'agit, c'est vive l'âme d'amour. Vive l'âme d'amour, c'est Saint Jean de la Croix qui a trouvé à travers la croix ce que l'Immaculé vivait dans son oraison. Et il en vivait aussi. Saint Jean de la Croix a été très crucifié. C'est pour ça que je vous ai lu Saint François d'Assise d'abord, parce que don de crainte, qui est le premier, et don de sagesse se rejoignent. L'adoration, Saint François d'Assise, la nature, la créature, la création, et la contemplation, Saint Jean de la Croix, se rejoignent. Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, dans la vie courante, on trouve des souffrances semblables à celles de Saint François d'Assise, et on les vit joyeusement en les offrant. C'est naturel, je veux dire, c'est la grâce chrétienne qui nous permet de vivre, de faire ça, bien sûr, par la grâce, par la puissance de l'amour de Jésus, on peut vivre ça, mais ça demeure quand même quelque chose de naturel, parce que avec Saint Jean de la Croix, nous allons vivre la même chose, mais au point de vue surnaturel, et tout ce que nous portons en nous, qui j'allais dire, est issu du fait que j'ai refusé consciemment, ou inconsciemment, les œuvres de Dieu, les interventions de Dieu dans ma vie, quand j'étais tout petit, quand j'étais adolescent, etc., qui sont accumulées. Et aussi les traces, j'allais dire, des interventions du démon, lorsque j'étais en état de péché mortel, qui s'est installé tranquillement dans mon âme, à garder cette trace et demeurer, puisque je vous l'ai expliqué, le sacrement de pénitence ne vous enlève que la tâche, mais pas du tout l'habitation et la conséquence. Le fait que le diable s'est trouvé à l'aise, et donc il y a des sentiments qui dépassent la nature que vous portez en vous. C'est enfoui. Et l'oraison va le faire éclater. Et ça va sortir. C'est évidemment très intense à ce moment-là. Comme vécu. Parce que c'est l'Esprit Saint qui purifie. Saint Jean de la Croix, vous savez, très 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 jeune, a rencontré Sainte Thérèse d'Avila. Et tout de suite, Sainte Thérèse d'Avila lui a dit qu'il était désigné par Dieu pour être son confesseur, pour faire réformer l'ordre du Carmel du côté des hommes. Mais aller trouver un petit mec qui a 21 ans et qui va dire, surtout à cette époque d'inquisition affreuse, parce qu'il y avait plein de sorcelleries, il y a eu plein de bonnes sœurs, etc., pendant le siècle précédent, enfin, même la génération juste avant, 10 ans avant, il y avait eu une sœur religieuse qu'on avait vénérée comme une sainte, style Marthe Robin ou presque. Et puis on s'est aperçu que c'était diabolique. Et il y avait eu 4-5 histoires comme ça en Espagne qui avaient. Alors en pleine période d'inquisition en plus, donc on se méfiait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout ce qui était un petit peu. Et Saint-Jean de la Croix en plus faisait des poèmes à ses bonnes sœurs, vous voyez le style. Alors l'inquisition, c'est pas drôle. Vous voyez ça? Alors, ce petit piou-piou de rien du tout, mange, petit, minable, 1m50, mais... je vais réformer l'ordre du Carmel. Ouais, écoutez, mon petit garçon, vous allez à la cuisine, peler les carottes. Hein. Sainte Thérèse d'Avila, donc là, assez vite, j'allais dire, ils ont été très jaloux de lui. Ils sont beaucoup méfiés de lui, ce qui est normal, on ne peut pas leur en vouloir. Et il a été donc enlevé, emprisonné dans une cellule semblable à celle de Saint-François d'Assise, était emprisonné à Pérouse, dans des conditions absolument épouvantables. On le sortait de la prison pour assister au réfectoire, où il devait passer tout le repas à genoux, et il devait manger sa soupe à genoux en léchant les cuets. Et on lui donnait à la fin du repas la discipline, c'est-à-dire on le frappait avec un titre de pénitence puisqu'il était tellement orgueilleux. Mais il fallait donc, et lui demeurait toujours à persévérer. C'est dans cette prison, il est resté plusieurs, dans des conditions un peu plus épouvantables, où on l'avait mis justement sous la juridiction d'un prieur, parce que lui a été prieur, Jean de Croix avait été prieur. Il y a eu une ascension quand même de Saint-Jean de la Croix. Là, je vous parle de la fin. Ou alors, on l'a mis prieur sous le priorat d'un père qui vraiment le détestait. Donc, il a eu une période absolument épouvantable. Et c'est dans ce cachot noir où il vivait la nuit obscure, la nuit de la foi, la nuit de la sensibilité tout en même temps. Quelque chose d'absolument épouvantable. Il a écrit « Vive flamme d'amour », le sommet de la croix. Il a écrit « Vive flamme d'amour » qui, au contraire, le poème où l'amour est exprimé d'une manière la plus débordante qui soit, les flammes. Et c'est assez extraordinaire. Hein? Et ce qu'il faut comprendre, c'est dans quel état il a écrit le poème « Vive flamme d'amour ». Et le poème, il va le donner à Donna Anna, qui est une carmélite qu'il aime bien. À la fin de sa vie, il va lui donner et elle le supplie de le commenter. Et donc, il fait le commentaire du flamme d'amour avant la fin de sa vie. Il est toujours dans ce courant. Il va s'en échapper d'ailleurs. Parce qu'il en peut tellement plus qu'à un moment, il lui semble que la Vierge lui demande de quitter. Et il va évadé en passant par la fenêtre de la tour, il va plonger dans l'eau qui est en dessous, à 60 mètres en dessous, sachant pas s'il y aurait des rochers ou pas. Il a plongé dans l'eau, il a nagé, passé de l'autre côté du lac, et il a été rejoint Sainte Thérèse d'Avila. Ouais, c'est donc dans ce contexte que Saint Jean de la Croix, c'est des choses que je sais pas, vous saviez peut-être la vie de Saint Jean de la Croix. Après, il reviendra dans ce couvent et toujours avec le même prieur. Il aura quelque chose d'un petit peu plus doux, mais quand même toujours complètement, complètement persécuté. Et puis alors, il va annoncer la veille ou l'avant-veille qu'il a vêpres de je ne sais plus quel jour exactement. Il sera au ciel. Et en effet, il s'allonge à un moment, il est en pleine forme. On se moque de lui, bien sûr. Il s'allonge, il est en pleine forme. Et puis quand sonne l'heure de vêpres, il ferme les yeux et il est mort. Il part au ciel. Saint Jean de la Croix, c'est quand même... Il faut lire quand même quelques petits passages de les flammes d'amour pour voir un petit peu ce que c'est. Il a écrit bien d'autres choses, le cantique spirituel, les purifications, la nuit obscure, etc. Donc je vous ai fait une espèce de grande trace jusqu'à maintenant. Et ce qu'il faudrait lire, c'est les flammes d'amour. Mais avant, je voudrais vous lire un peu de mémoire, une strophe qu'il a écrite et qui doit nous concerner parce que c'est la purification, le passage, le moment du passage des fiançailles, sixième demeure, au mariage spirituel. Il exprime sous forme d'un poème. Or, ceci, c'est ce que nous vivons, nous. Parce qu'on n'est pas toujours dans la perfection, si vous voulez, puisqu'on n'est pas toujours sous l'effusion de l'Immaculé, complètement, absolument. Tantôt, on retombe dans une espèce de, pas de tiédeur, mais de véhémence moins grande dans la maîtrise en présence de Dieu dans l'oraison. Et on s'en rend compte, et on voudrait retrouver la plénitude de la vision intérieure. Et donc on passe sans arrêt de fiançailles au mariage. Pour ça, je trouve ça très intéressant de regarder ce petit passage où l'âme dit, dans Saint Jean de la Croix, si dans le miroir de tes eaux argentées, ô fontaine intarissable, si dans le miroir de tes eaux argentées, si dans le miroir de tes eaux argentées, tu me laissais voir enfin les yeux que sans fin je cherche et que je garde à l'ébauche dans mon âme. Ah, fontaine cristalline, si dans le miroir de tes eaux argentées, tu me laissais voir soudain tes yeux, que sans fin je cherche et que je garde à l'épaule dans mon âme. Ça, c'est les fiançailles. Il commence, vous avez 4, 5, 7, 8 pages de commentaires de Saint-Jean de la Croix. Ô fontaine cristalline, oui, parce que quand vous êtes dans l'espérance, vous êtes la fontaine cristalline, dans le miroir de tes eaux argentées, la fontaine de la grâce, vous vivez vraiment de la vie divine en vous. Quand vous êtes dans la fiancée, vous êtes immergé. Je suis l'Immaculée Conception. Vous êtes vraiment immergé dans la vie divine, la grâce dans sa plénitude. Une fontaine intarissable, cristalline, pure, immaculée, vous voyez. C'est dans le miroir de tes eaux argentées, l'argent représente toujours l'espérance. L'argent, c'est l'espérance. L'or, c'est la charité, en langage symbolique. Donc, dans le miroir de tes eaux argentées, à travers le plénitude de grâce, assis à travers le voile de cette grâce que j'éprouve, dans laquelle je me plonge, je me laisse immerger, imbiber, compénétrer, assis à travers ce voile de l'espérance, de tes eaux argentées qui coulent sans cesse. Si tu me laissais voir, soudain, tu déchirais le voile de l'espérance pour que je puisse voir les yeux de l'époux, les yeux du Verbe, les yeux du Christ. Le voir en face, pour le contempler en face, pour le toucher réellement, soudain. Ces yeux que sans fin je cherche, sans fin. C'est Jésus qu'on cherche toujours dans l'horizon, c'est sûr, mon bien-aimé. Et que je garde à l'ébauche dans mon âme, puisque Jésus est en moi de manière si forte, il m'a saisi. Et la charité, l'amour pour Jésus m'étreint, on me presse. Alors, il continue le petit poème en disant, voilà. Et que je garde à l'ébauche dans mon cœur. Le cœur a déjà été blessé par l'amour pour Jésus. Il y a une espèce de blessure, ce cœur qu'on sent quelquefois. On sent cette petite blessure du cœur ici, dedans, physiquement. Donc je garde à l'ébauche Jésus, si vous voulez, et je voudrais le voir enfin, soudain, à travers la grâce.
Alors, il y a trois petits points, petits pointillés. Et puis, il y a marqué, éloigne-les, mon bien-aimé, les yeux. Éloigne-les, mon bien-aimé. Et puis encore trois petits points. Et puis, c'est l'époux qui parle. Viens, ma bien-aimée, viens. Car voici, vois ici. Voici, ça veut dire vois ici. Qu'au sommet des monts apparaît le cerf blessé. Viens, ma colombe. Viens, ma bien-aimée, viens, ma colombe. Car voici qu'au sommet des monts apparaît le cerf avec le bois blessé. Savourant la brise fraîche de ton vol. Alors, commentaire de Saint-Jean de la Croix. Il est considéré comme le plus grand poète d'Espagne. En Espagne, l'Académie d'Espagne le considère comme le plus grand poète d'Espagne, selon l'espagnol. Évidemment, en espagnol, c'est extraordinaire. Absolument extraordinaire en espagnol. L'harmonie est absolument parfaite. Non, vous demandez à voir Jésus, voir Jésus, ses yeux, vous allez peut-être voir soudain le désir de la fiancée, de consommer l'union. Et puis Jésus, il explique à ce moment-là, en effet, dévoile quelque chose de lui, mais c'est si fort, ça illumine l'âme de manière telle que ça. J'ai raconté à quelques-uns, normalement ça se fait pas, mais c'est vrai, mais c'est grâce que j'avais une fois. Normalement on ne dit pas les grâces qu'on a, mais c'est vrai. Donc, quand on est entre intimes, si vous savez garder le secret, ça. Mais à un moment, donc, comme Saint-Maximien Kolb, vous savez, avait reçu dans le coin de son armoire, le ciel s'était déchiré, était descendu une couronne rouge, une couronne blanche, la couronne du cœur virginal, la couronne du martyr. Et il avait tout de suite embrassé les deux couronnes et genre, je veux les deux. Alors moi, une fois, comme ça m'était arrivé, que je faisais les exercices de Saint-Ignace, le ciel s'était déchiré, comme ça. Et une main, c'était pas une main, là, mais qui proposait une rose rouge et une rose blanche. Très belle. Oui, c'était dans une rose, hein, ça. Une rose rouge, une rose blanche. C'était très beau, c'était pas splendide, c'était bien. Oui, on a des choses quelquefois plus splendides. Quand on voit l'Immaculée, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus impressionnant au point de vue beauté. Mais là, on sentait bien. Et alors, le mouvement à ce moment-là d'un très grand désir, il dévoile quelque chose, la rose rouge, la rose blanche, et à ce moment-là, je me rappelle très bien. J'ai eu un mouvement de recul. C'est pas possible. Ça a duré un dixième de seconde, une demi-seconde. Disons, le martyr. Oui. Mais c'était dans un état d'oraison. Là, c'est pas du tout une réaction humaine que j'ai eu, c'est pas une réaction humaine. C'est une réaction d'enfant de Dieu qui recule. Et recule. Et hop, c'est remonté. Le ciel s'est fermé. Tandis que pour Saint-Maximilien Kolb, il a tout de suite pris. Éloignez-les, mon bien-aimé. Vous inquiétez, je vous raconte pas ce qu'il y a eu après. Parce que je suis une très grande tristesse. Éloigne-moi, éloigne-moi mon bien-aimé. Puis je perçois que non, tu ne peux même pas prendre ce que Jésus te donne. C'est parce que c'est un instinct divin, ça. C'est immaîtrisable. J'étais incapable de maîtriser ce mouvement de recul, de dire non. incapable. Alors, tout de suite après que tu es parti, mais pourquoi j'aurais voulu dire oui. Allez, a posteriori, je vais si, alors, mon nez. Comment c'est foutu, c'est l'avantage et tout. Hein? Donc je mourrai pas martyr, je serai pas là. Et, alors à ce moment-là, vous avez la réponse du bien-aimé qui dit, mais non, n'aie pas peur, viens, ma bien-aimée, viens, ma colombe, voilà ici, au sommet des monts, apparaît le cerf blessé, savourant la brise fraîche de ton vol. Mais cette réponse tout de suite pour consoler Jésus. Le cerf représente le Christ. Donc vous voyez, il est toujours dans les iconographies et les mosaïques en Israël, etc. Toujours, toujours, vous verrez le cerf. Parce que c'est celui qui porte sur sa tête le bois. Il est toujours fixé à la croix dès le premier instant de sa conception. Dans sa tête, sa contemplation est fixée à la croix. Et il est blessé. Et comme l'explique Saint Jean de la Croix, quand un cerf est blessé, c'est l'animal qui, lorsqu'il perd son sang, a une soif brûlante. C'est pour ça qu'on fait des chasses à court. Quand on fait des chasses à court, on sait très bien qu'il court, il court, il court pour aller boire. Et il brûle. Il y a un cerf blessé qui perd son sang. Ressent comme une brûlure, comme si on le brûlait dans ses entrailles. Il faut absolument qu'il court comme un fou pour boire. Éperdu de soi. Le cerf blessé. Au sommet du mont, la montagne représente le Verbe de Dieu. Le Verbe, c'est sur les sommets de la divinité du Verbe, de la lumière, que le Christ court, 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 assoiffé de quoi ? Des âmes.
On a croit que c'est comme ça, mais qu'on vit dans nos régions. Mais on médite ça, et ça permet après dans nos régions de ne pas se tromper de chemin, en disant, tiens, faire oraison, je dors. Alors, j'ai fait mon oraison. Non ? Non, non, vive flamme d'amour, au côté délectable, aux caressant ses blessures. Dans ce couplet, l'âme qui exprime son expérience d'amour essaye d'exprimer jusqu'à quel point les trois personnes dans la très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, sont celles qui seules agissent, accomplissent, travaillent et brûlent dans cette œuvre de l'union toute son âme, tout son cœur, toute sa chair. Et à partir de là, l'âme dit, oh, cotère délectable. Parce que, à partir de là, oh, caressante blessure, oh, flatteuse main. Parce que la main, le cotère, vous voyez, c'est caressant, je pense à la tête sur les yeux. Un peu rouge. Ouais, comme ça peut se dire tout à coup, Saint Jean de la Croix était dans la nuit obscure du cachot, rappelez-vous. Et donc il vivait un cotère délectable, exactement ce que Saint François d'Assise vivait dans ses yeux au niveau de ses brûlures. Un cotère délectable. Exactement comme Saint François d'Assise qui fait le cantique des créatures. La main, le cotère et la touche délicate sont une seule chose substantiellement. Vous voyez, le Père, le Fils, l'Esprit. Et l'âme leur donne ses noms de cotère, de main et de touche. En ce sens que le cotère, c'est l'Esprit Saint qui brûle et purifie. La main, c'est le Père qui fait tout, puisqu'on est plongé dans ses entrailles en repos, et la touche délicate,
c'est leur fille. Plaît sur plaie. Blessure sur blessure. C'est pour ça qu'il embrasse Judas sur la bouche, parce qu'il n'accepte pas les plaies. Mais les autres, les plaies de leur péché, ils les appliquent sur les plaies du Christ. C'est ça le baiser ardent du Christ. Dans leur rue. Où les plaies de nos péchés, qui déchirent notre âme et notre cœur, se plongent, se cachent, s'engloutissent dans les plaies de Jésus. Le fameux embrassage, qu'il me baise d'un baiser de ma bouche, comme une cantique des cantiques, avec le commentaire de Saint Bernard, qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Et il dit le baiser, la bouche, c'est l'incarnation, c'est Dieu qui s'incarne et qui me donne une bouche. L'embrasse, l'embrassade. L'acte de foi, et vous avez le baiser, c'est le. En plaie sur plaie, c'est le commentaire de Saint Bernard est génial. Vous avez Jésus, le Verbe et l'incarnation. Le baiser, c'est l'incarnation en nous. Jésus s'incarne en nous. Nous sommes Jésus. Et par le moyen de la croix, ce sont ses plaies et ce sont nos béants. Si tu me les dévoilais, tes yeux que sans fin je cherche, et que je garde à l'ébauche dans mon cœur, Jésus arrive avec sa... et on voit immédiatement qu'on est blessé, qu'on ne peut pas, qu'on est impuissant, etc. Vous voyez, qu'on est un salaud, qu'on est un lâche, qu'on est un traître. Quand Dieu donne tout bas. Éloigne-les, mon bien-aimé. Alors, justement, très bien, vite, plaie sur plaie, le cercle blessé, le baiser, le mariage, l'être. C'est pour ça que dans l'oraison, il faut les purifications pour qu'il y ait le mariage. Et c'est le passage incessant de fiançailles au mariage. Donc, la main, c'est le Père, la touche délicate, c'est le Fils. De sorte que l'âme, ici, dans ce verset, mon poète, il explique à la Carmélite, vous comprenez, il explique à Donna, là. Magnifie le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en reconnaissant ces trois effets extraordinaires, ces bienfaits parfaits, qu'ils font simultanément en elle pour lui changer la mort en vie, la tuer et la transformer en eux-mêmes. La première grâce est une blessure caressante, ô cotère délectable, ô caressante blessure, ô flatteuse main, ô touche délicate. La première grâce est une blessure caressante, ô caressante blessure. Et elle l'attribue à l'amour substantiel du Père et de son Fils, l'Esprit Saint. C'est pour ça que c'est si délectable. La seconde est un goût de vie éternelle, un goût, une saveur de vie éternelle qu'elle attribue au Fils qu'il vit dans sa chair. Alors, vous savez, c'est pas bien, bien sûr. Et la troisième vient de ce que l'âme est transformée. Il la transforme en lui-même. Ô flatteuse main, ô touche délicate, qui sent la vie éternelle et qui paye toute dette. Donc la troisième grâce vient de ce qu'il la transforme en lui-même. Et telle est la dette avec quoi le Christ paye l'âme, et elle est bien payée. Le Christ est en dette vis-à-vis de nous, puisque nous faisons un acte de foi, Le Christ est mendiant. Le Christ est un mendiant. Et l'âme est mendiante aussi, puisque les pécheresses, elle mendie la rédemption. La rencontre de deux mendiants, Jésus est un petit peu à la fois mendiant et voleur. Donc on donne un peu, on donne un peu. Il prend tout ce qu'on ne lui a pas donné. C'est un voleur. En même temps, il mendie. Nous appelle à aller toujours plus loin, dans l'amour. Et on est en dette avec lui. Et la manière pour lui de nous remettre la dette, c'est de nous transformer en lui-même. On est bien payé. Et cette grâce est attribuée au Père. Vous voyez, la dette, c'est son Fils qui l'envoie. Le Père. Il envoie son Fils pour régler la dette. Il est en dette vis-à-vis de nous parce qu'il est en soif. L'esprit de soif de Jésus à la croix manifeste la soif ardente du Père de voir revenir tous ses enfants dans ses entrailles. Et puisqu'on fait ce mouvement, il nous paye de sa dette en envoyant son Fils et en faisant que nous soyons le Fils unique du Père, l'enfant de Dieu. Et quand ces petits enfants disent, il faut que nous vivions en enfant de Dieu. La grâce, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Ah, qu'est-ce que c'est que la grâce? Ah, mais nous sommes enfants de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Dans l'oraison seule se passe ça. Alors ça, c'est l'archi-résumé du second couplet. Et après, vous avez à chaque mot, à peu près une page. Au côté, en fait. C'est pour que vous appreniez à lire. On l'a lu ensemble une fois, et puis après, vous ferez tout seul pour le reste. Au côté délectable. Ce côté, ainsi que je l'ai dit, c'est l'Esprit Saint, parce que, comme dit Moïse au Deutéronome, notre Seigneur Dieu est un feu consumant. C'est d'avoir un feu d'amour, un feu brûlant, duquel, comme la force est infinie, on ne peut pas estimer à quel point il travaille, consume et transforme en soi, jusqu'à quel point il va pour toucher l'âme et la transformer. Toutefois, il embrasse et il absorbe chacune, les unes plus, les autres moins, selon leur disposition. En tout cas, c'est comme bon lui semble. Et comme et quand il veut. Et comme c'est un feu embrasant et consumant d'amour infini, lorsque il veut toucher une âme un peu étroitement, c'est-à-dire ne serait-ce qu'un petit peu, l'ardeur de l'âme monte ainsi. Ou degré d'amour, qui semble à l'âme qu'elle brûle plus fort que toutes les ardeurs de l'univers tout entier. C'est génial, ça te donne de l'âme. C'est pourquoi elle appelle dans cette union le Saint-Esprit au côté. Parce que comme le feu d'un côté est plus ardent et plus véhément, il fait plus d'effet que les autres feux, parce que c'est évidemment beaucoup plus désagréable d'être brûlé au fer rouge, au côté, que d'être brûlé par une flamme d'une bougie ou d'un bûcher. Atroce d'être brûlé au fer rouge. Donc c'est pour ça l'appel. Parce que le feu d'un côté est beaucoup plus ardent, et plus véhément, et fait plus d'effet que les autres feux. Ainsi, l'acte de cette union provient d'un feu d'amour enflammé au-dessus de tous les autres en ardeur, en brûlure, en instantané, en embrasement, en consommation. Ce que disait Marthe, vous voyez. L'amour. Marthe Robin, c'est ça. Une petite parole de Marthe Robin que j'aime bien. Elle disait, oui, très bien, être consumé d'amour.
conçu.
Oui, oui, oui. Mais aussi être consommé. Mais il va dire après, lui. Très très bien. Être consumé, très bien. Être consommé. Nous sommes l'Eucharistie, Jésus. Dévore. Parce que dans cet endroit, à cet instant, le feu divin tient l'âme toute transformée dans ce feu même, et comme charbon de coque son brasement, non seulement elle sent le cotère, mais aussi elle-même tout entière est convertie et transformée en un cotère de feu très ardent. Et c'est une chose admirable, et il faut absolument le dire. Le manifester, le raconter et l'expliquer, nonobstant que ce feu de Dieu soit d'une efficacité telle pour consumer avec une véhémence et une promptitude particulière, qu'il consumerait à lui tout seul plus facilement 1000 univers que le feu d'ici-bas, une petite poignée d'étoupe. Il ne consume pas néanmoins, et pourtant l'âme n'est pas détruite, la grâce ne détruit pas la nature. Elle ne détruit pas du tout l'âme dans laquelle il brûle de cette façon. Et encore moins, il donne des expériences fâcheuses, mais plutôt, selon la mesure de la force et de l'amour, il la pénètre en la déifiant, et il la délecte, il la brûle, il l'ardarise, il lui donne ardeur, vous voyez, il l'ardarise avec suavité. Les flammes d'amour. Ça, c'est le récent, vous voyez, vous vivez ça dans la raison. Et cela arrive ainsi à cause de la pureté extraordinaire et de la perfection absolue de l'esprit dans lequel il brûle. Ainsi, il est arrivé dans les actes des apôtres que le feu arrivant avec une grande véhémence a embrasé les disciples, lesquels, comme dit un Grégoire, furent brûlés intérieurement d'un amour très suave. Et c'est ce que l'Église donne à entendre quand elle dit à ce sujet, le feu descendit du ciel, non pas en brûlant, mais en jetant sa splendeur, non pas en consumant, mais en éclairant. Ça ne détruit pas, ça vous magnifie. Et ça donne à votre personnalité de se développer et de se prolonger divinement. Naturellement et se manifester non seulement de manière naturelle dans la création mais aussi surnaturellement jusqu'au plus grand confin, jusqu'aux plus grandes profondeurs des cieux où se trouve le sein du Père et toutes les hiérarchies séraphiques. Là, c'est très beau pour Saint Jean. Parce que, comme le but que Dieu prétend dans cette manière de se communiquer consiste à agrandir l'âme, extase. La très révérende mère est en extase. Comme Plotin, en extase, ça se complète. Suspendu littéralement. Toutes les puissances de l'âme sont absorbées dans le feu divin. Dieu se prétend, cette manière de se communiquer, consiste à agrandir l'âme, à agrandir celui qu'il aime. Il ne la fatigue pas, et il ne l'étreint pas, il ne la presse pas non plus, mais il la délecte, il la dilate. Il ne la noircit pas, il ne la réduit pas en cendres, comme ferait le feu avec le charbon ou avec le bois.
comme le feu fait au charbon, mais il l'éclaircit au contraire, l'enrichit, l'agrandit. Et c'est pourquoi elle dit que c'est un cotère qui est véritablement délectable. Alors maintenant, il va passer à délectable. Ça, c'est cotère, maintenant c'est délectable. Donc, vous avez... Est-ce que vous comprenez comment Saint-Jean de la Croix travaille, vous voyez? Saint-Jean de la Croix travaille comme ça, vous voyez? Il fait le poème, il rassemble des mots, et dans ces mots, voilà, chacun de ces mots, et les uns s'associent aux autres, de manière structurée très profondément, vous voyez? Alors, ça aurait été très bien qu'on fasse le pèlerinage en commençant par cette ellipse-là, et on aurait continué jusqu'à la fin. Oui, vous voyez, c'est que vous avez le don de sagesse pour toute l'année jusqu'à la Pentecôte prochaine. Vous lisez Saint-Jean de la Croix, livre plein d'amour, comme lecture au table de nuit, votre lecture de chevet. Votre livre de chevet, Saint-Jean de la Croix, livre plein d'amour. Vous voyez comme c'est tout à fait adapté à ce que nous avons à vivre, tout à fait adapté à ce que nous devons vivre, tout à fait adapté à votre vocation, notre vocation. Parce que, puisqu'il s'agissait donc de parler de vocation, puisque c'était l'introduction pour parler de la vocation,